semaine d'actualité. Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, samedi 11 juillet, nous sommes fidèles au rendez-vous, vous le constatez, pour vous offrir un regard sur une semaine d'événements avec bien sûr les reportages de la rédaction de RFI. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger cette émission, la podcaster sur le site de la radio RFI.fr. Dans un instant, nous partirons pour la Grèce, l'Iran par exemple, et tout à l'heure, destination l'Afrique. Rendez-vous également avec vos messages. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de notre confrère Sedi Kaba, le tout nouveau rédacteur en chef de Monde Afrique, il faut le signaler. Félicitations, Sedi.
Merci beaucoup.
Et un petit bonjour en passant. Je rappelle que vous êtes l'auteur de plusieurs livres. On en parle à chaque fois. Hein. Le dernier en date s'intitule Entretien avec Boubacar Ba, un Nigérien au destin exceptionnel. On en redira un mot dans l'émission. Et vous avez écrit précédemment Niger, la junte militaire et ses 10 affaires secrètes. Là aussi, je crois qu'on en reparlera un petit peu. 2010-2011. Qu'est-ce qui vous a marqué dans l'actualité de la semaine, Sedik?
D'abord, la Grèce, naturellement, comme tout le monde, cette situation.
Le fait marquant, ouais.
Fait marquant. Et ça m'a rappelé les épisodes d'ajustement structurel que l'Afrique a connu sur plusieurs points. Ce qui se passe aujourd'hui en Grèce a déjà été connu par des pays africains et le président Macky Sall du Sénégal a bien fait de le rappeler il y a 2 ou 3 jours. Les pays africains ont déjà traversé cette phase où on leur a imposé des politiques économiques, le couteau sous la gorge. Aujourd'hui, c'est ce que la Grèce refuse.
Et en Afrique, qu'est-ce qui vous a marqué en 2 mots cette semaine sur le continent africain?
Sur le continent africain, il y a incontestablement la situation au Burundi qui ne s'améliore pas. Et nous sommes quasiment, pour moi, devant une situation de peuple, un peuple non-assistance à un peuple en danger. On parle de non-assistance à personne en danger, qui est même un fait punissable par la loi, mais là, on est dans une situation de non-assistance. On a pensé que la communauté internationale avait tiré les leçons du génocide rwandais de 1994, où elle n'avait pas agi à temps et s'est retrouvée à regretter. Et aujourd'hui, on est quasiment dans la même situation, parce que le Burundi ne fait que s'enfoncer malgré la situation aujourd'hui où on pense que des allocations ont pu être organisées et le pays est tiré d'affaire. Non, la situation ne va qu'empirer.
On va bien sûr en parler tout à l'heure.
Sept jours dans le monde.
Et tout de suite, c'est dit qu'écoutons la joie d'une Grecque à Athènes dimanche soir après la victoire du non au référendum sur l'austérité.
Je suis vraiment contente pour le résultat. C'est incroyable. Je pensais qu'on va gagner. Je n'étais pas sûre qu'on sera si avancé. On dit non directement à la politique d'austérité que l'Union européenne veut nous imposer et imposer pas seulement en Grèce, mais dans toute l'Europe. C'est un nom pour toute l'Europe.
Mercredi, le Premier ministre grec Alexis Tsipras a voulu réserver ses premières déclarations au public, en quelque sorte, d'après référendum aux parlementaires européens. Voici un extrait de son discours.
Le choix courageux du peuple grec lors du référendum n'est pas un choix de rupture avec l'Europe. Le message des Grecs est clair. L'Europe sera démocratique ou alors elle aura beaucoup de difficultés à passer cette période compliquée que nous vivons actuellement. On nous demande de respecter des règles strictes. Mais il ne faut pas oublier que nous ne sommes au pouvoir que depuis 5 mois et demi, alors que les problèmes que nous sommes appelés à résoudre se sont cumulés bien avant, pendant 5 ans et demi. Nous voulons trouver un compromis honorable pour éviter une rupture qui serait une rupture avec la tradition européenne. Nous sommes tous conscients des enjeux et nous sommes prêts de notre côté à prendre nos responsabilités historiques.
Une semaine d'actualité donc, merci de votre fidélité, également sur le site de la radio RFI.fr.
Sept jours dans le monde.
Et avant de vous retrouver, Sadi Kaba, partons pour la bande de Gaza. Cette fois, un an après la guerre entre le Hamas et l'armée israélienne qui a fait quelques 2000 morts, il faut le rappeler, essentiellement chez les Palestiniens. Reportage de Muriel Paradon.
Terminal de Rafah, le point de passage entre la bande de Gaza et l'Égypte. Ce jour-là, les portes sont ouvertes. Certains Gazaouis peuvent sortir, eux qui sont enfermés la plupart du temps, soumis au blocus de l'Égypte et d'Israël. Djihad, un étudiant de Gaza, a l'autorisation de sortir et il compte bien ne pas revenir.
Je vais d'abord en Égypte et si je peux, j'irai ailleurs, en Suède, si Dieu le veut. Là-bas, on peut étudier, travailler. Ici, pour les jeunes, il n'y a rien, pas de travail, alors qu'il y a beaucoup de diplômés comme moi. Alors on reste chez nous à ne rien faire et c'est pour ça que je veux partir ailleurs, tenter ma chance.
Avec le blocus et cette nouvelle guerre l'an dernier à Gaza, la situation est devenue intenable. Les jeunes n'ont pas d'avenir, selon l'économiste gazaoui Omar Chaban.
Deux tiers des jeunes ne sont jamais sortis de Gaza. Ils n'ont jamais voyagé, ils n'ont pas de travail. Ils sont pourtant éduqués, ils parlent anglais, ils sont connectés à Facebook. Ils comparent leur vie à celle des jeunes européens. Ils voient la différence, elle est énorme. Et cela peut créer du radicalisme ou mener à une nouvelle guerre.
Si Israël ne lève pas le blocus sur Gaza, prévient Omar Chaban, de plus en plus de jeunes pourraient choisir la voie de l'islam radical.
Une semaine d'actualité donc, Sadi Kaba, en écoutant ce reportage, on s'aperçoit qu'un an après ce conflit, les problèmes demeurent et la population palestinienne notamment continue de souffrir.
Absolument, absolument, on le remarque, tout l'espoir de la reconstruction de ce qui avait été détruit oui. N'a pas été satisfait. Toutes les attentes de la population, toutes ces promesses d'aide qui avaient été faites, notamment par les pays arabes, n'ont pas été tenues aujourd'hui. Les populations se trouvent dans une situation où il n'y a plus la guerre, mais elles sont dans une précarité qui ressemble elle-même à la guerre. Elles n'ont pas d'intimité, elles sont obligées d'habiter dans des débris de maisons qui peuvent s'effondrer du jour au lendemain. Et il y a aussi cet épisode dont on a parlé ici même à une semaine d'actualité, les crimes qui ont été commis, oui. Qui ont été mis à jour par une ONG qui n'ont pas été poursuivis. Et aujourd'hui, donc,
alors, il y a une situation des deux côtés
qui n'ont pas été poursuivis et la population se trouve dans une sorte de désespérance. Il y a aussi ce phénomène de blocus. Le blocus continue, le blocus de la bande de Gaza par les forces israéliennes continue, ce qui fait que on retrouve des jeunes qui n'ont connu que cette situation, qui n'ont connu que cette culture de guerre, qui sont conditionnés, qui ne peuvent avoir pour perspective que la violence. Donc il faut absolument, à mon avis, il y a une urgence là aussi à agir pour que les populations sortent de la situation dans laquelle elles se trouvent.
Alors on va reparler de la Grèce tout à l'heure, mais je voudrais qu'on s'arrête en Afrique et rappeler qui était ce monsieur Boubacar Ba. On en a parlé il y a un peu plus d'un mois avec vous dans cette émission d'ailleurs, un Nigérien au destin exceptionnel, c'est le sous-titre de votre livre publié chez L'Harmattan, un personnage incroyable.
Absolument, c'est une personne illustre, c'est sans doute un des plus Nigériens les plus illustres, avec le professeur Abdou Moumouni et le professeur Tandiko Dankolodo.
Normalien, agrégé de mathématiques.
Agrégé de mathématiques, normalien, premier africain à entrer à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, a enseigné les mathématiques pendant 28 ans et un homme d'une humilité incroyable. Pour son parcours, beaucoup de gens aujourd'hui, pour avoir écrit un ou deux livres ou pour avoir obtenu une ou deux thèses, se comptent pour l'alpha et l'oméga de l'intelligentsia africaine.
Vous trouvez aussi ?
Le professeur Ba, dont j'ai été le disciple, m'a enseigné justement la modestie. La modestie, et j'ai aimé chez lui parce qu'il a créé ex nihilo, disons, l'université, le centre d'enseignement supérieur avec l'ordre de Djori Amani, qui est devenu par la suite université de Niamey et qui est aujourd'hui université Abdou Moumouni Diofor de Niamey. C'est un homme brillant dont le parcours doit inspirer tous les Nigériens et tous les Africains. Et ce que j'ai surtout aimé chez lui, pour vous qui avez lu son livre, c'est qu'il parle plus de Aoéfien, c'est-à-dire ressortissant de l'Afrique occidentale française, pour justement évacuer la question du micronationalisme. Lui ne se considérait pas comme Nigérien, comme Malien, il se considérait comme un Africain. Un Africain de l'Ouest, et il avait cette conscience du panafricanisme à lui.
RFI. La Russie, Sadiq Abba, a opposé mercredi son veto à un projet de résolution des Nations Unies reconnaissant le massacre de Srebrenica comme un génocide, qualifiant le texte d'agressif. Rappelons qu'en juillet 1995, près de 8000 hommes ont été massacrés en Bosnie, New York, Maribourg.
Pour les membres du Conseil de sécurité, il s'agissait d'un devoir de mémoire, celui de rappeler le massacre de 8000 hommes et jeunes garçons musulmans bosniaques de Srebrenica. Un massacre que l'ONU n'avait pas su empêcher alors que la ville avait été déclarée zone de sécurité et qu'elle était sous le contrôle de près de 400 casques bleus néerlandais. Mais en qualifiant dans son projet de résolution ce massacre de génocide, l'ONU a réveillé un conflit qui empoisonne depuis 20 ans les relations entre Serbes et Bosniaques. Après de multiples ajournements du vote, américains et britanniques n'ont pas réussi à convaincre la Russie, traditionnelle alliée des Serbes, de voter cette résolution. L'ambassadeur russe Vitali Tchurkin a critiqué une tentative de réviser l'histoire et le risque de réveiller des tensions ethniques et religieuses dans une région toujours fragile. Une critique injustifiée pour les membres européens et américains du Conseil de sécurité, pour qui un tel sujet méritait l'unanimité. Ce veto sera une nouvelle tâche dans l'histoire de ce Conseil, a souligné Samantha Power, l'ambassadrice américaine à l'ONU.
8000 êtres humains donc massacrés à Srebrenica en juillet 1995. Russie toujours en quelque sorte. Le président Vladimir Poutine a accueilli mercredi à Oufa, en Russie, à 1200 km de Moscou, vers l'Asie, les dirigeants des pays émergents des BRICS lors d'un sommet au cours duquel la Russie a voulu en quelque sorte montrer qu'elle n'est pas isolée sur la scène internationale malgré la crise ukrainienne et les sanctions occidentales. Correspondance mercredi de Muriel Pomponne.
La Russie a longtemps été le seul pays à la fois membre du G8 et des BRICS, autrement dit membre du club des pays les plus puissants et membre du club des pays émergents à forte croissance. Mais depuis la crise ukrainienne, la Russie est exclue du G8. Pour Moscou, la tentation est donc grande de faire des BRICS un contre-G8. Le Kremlin présente les BRICS comme le symbole, mais également le moyen de parvenir à un monde multipolaire. Le renforcement des BRICS est un élément essentiel de la politique russe. Il s'agit de faire évoluer ce forum de dialogue vers une structure de coopération politique et économique. Moscou souhaite donc développer des projets d'intérêt commun, comme l'est la Banque de développement qui va voir le jour lors de ce sommet. Toutefois, le Brésil, l'Inde ou l'Afrique du Sud n'ont aucune envie de s'opposer aux pays occidentaux. Quant à la Chine, elle défend surtout ses intérêts économiques. Moscou ne doit donc pas s'attendre à trouver dans les BRICS des alliés pour sa politique extérieure.
Suite d'une semaine d'actualité, Sadiq est retour en Grèce avec de nouvelles propositions d'Athènes à l'Europe jeudi soir, Mounia Daoudi hier vendredi.
Les propositions transmises la nuit dernière à la présidence de l'Eurogroupe ont tout pour satisfaire les créanciers d'Athènes. Le gouvernement grec s'engage ainsi à augmenter la TVA à 23% pour la restauration et à 13% pour l'hôtellerie. Il prévoit aussi de supprimer d'ici fin 2016 les exemptions de TVA dans les îles. Athènes envisage également une hausse des impôts sur les sociétés et pour les armateurs. Les taxes sur les produits de luxe et la publicité à la télévision seront immédiatement relevées. Le sacro-saint budget de la défense sera lui amputé de 300 millions d'euros et les privatisations, stoppées dès l'arrivée d'Alexis Tsipras, vont être relancées. Enfin, une nouvelle réforme des retraites est également prévue. En échange, et c'est là où les choses risquent de coincer, la Grèce réclame un financement de 53 milliards et demi d'euros sur 3 ans pour couvrir les obligations liées au remboursement de sa dette. Un troisième plan de sauvetage que ses partenaires européens ne sont peut-être pas prêts à lui accorder.
Et la situation en Grèce est évidemment à suivre dans nos journaux. Et c'est en regardant ce qui se passe à Athènes que le gouvernement anglais a justifié de son côté de nouvelles mesures d'économie et diminué encore la place de l'État dans le pays. Londres, mercredi, Muriel Delcroix.
Brandissant l'épouvantail de la crise économique grecque, le chancelier de l'échiquier s'est donné pour mission de sécuriser l'avenir de la Grande-Bretagne. Et pour ce faire, George Osborne a annoncé avoir trouvé 17 milliards d'euros d'économies dans les dépenses sociales et 7 milliards de plus en s'attaquant à l'évasion fiscale.
Ce sera un budget pour les gens qui travaillent et pour passer d'une société de bas salaire avec des dépenses sociales élevées et des impôts élevés à une société de haut salaire avec des dépenses sociales basses et des impôts bas.
Voilà résumé dans cette phrase toute l'idéologie derrière ce budget 100% conservateur. L'objectif est de réduire le poids de l'État au plus faible niveau possible. Pour y arriver, George Osborne a décidé de limiter le total des diverses allocations perçues par une famille à un maximum annuel de 32 000 euros contre 36 000 aujourd'hui. Le gouvernement va aussi diminuer les aides au logement, notamment pour les familles aisées, et limiter les crédits d'impôt pour les familles nombreuses. Pour contrebalancer, il a annoncé la création d'un nouveau salaire minimum national l'année prochaine. Il sera obligatoire et atteindra 12,50 euros d'ici 2020. Enfin, reprenant une promesse de campagne de ses adversaires travaillistes, George Osborne a décidé d'abolir le statut controversé de non-résident fiscal permanent.
Suite d'une semaine d'actualité en compagnie de Sedi Kaba, le rédacteur en chef de Monde Afrique et auteur notamment d'entretiens au pluriel avec Boubacar Ba, livre publié chez L'Armatan, se demande, Sedi, pourquoi il y a eu un référendum dimanche, puisque les mesures proposées jeudi par Athènes, semble-t-il, semblent encore plus dures que celles refusé par le peuple grec.
Non, il y a le référendum a permis de clarifier le rapport de force interne au parti du Premier ministre. Le Premier ministre Tsipras avait besoin de ce référendum par rapport à son aile dure, à l'aile dure de son parti, pour avoir les coudées franches, aller prendre des engagements. Là, il a le mandat du peuple pour pouvoir négocier. Donc, il y a cette clarification interne à la Russie, et aussi ça permet à Tsipras aujourd'hui de prendre des engagements et d'aller au-delà de ce qu'il aurait pu faire s'il n'y avait pas eu le référendum. Le référendum donc avait une utilité, c'était une mesure de clarification à l'intérieur même de la société grecque, c'était de la Grèce elle-même. C'était tout à fait important. Moi, à mon avis, le référendum a été utile parce que au départ, beaucoup de pays européens aujourd'hui mettaient en garde Tsipras pour lui déconseiller ce référendum. On a même considéré ça comme un casus belli.
Oui, il y a eu de fortes pressions
pour que le référendum ne se tienne pas. Il est allé, le référendum lui a permis de revenir en position de force et d'aller à la négociation en position de force.
Alors, le sommet des BRICS sous l'égide de Vladimir Poutine vous inspire un commentaire?
Il y a clairement dans la tenue de ce sommet une volonté de créer un nouvel ordre mondial. C'est-à-dire de balancer. Au-delà des BRICS, la Russie a invité l'Iran, l'Afghanistan, le Pakistan et d'autres pays. Les pays de l'espace de l'Organisation de la coopération de Shanghai ont été invités pour qu'il ait le poids nécessaire pour faire un contrepoids. Souvenez-nous que la Russie a été exclue du G8. Aujourd'hui, c'est le G7 la Russie en a été exclue à cause de la situation en Ukraine. Donc la Russie, si elle peut trouver un autre lieu de discussion qui va faire le contrepoids au G7, c'est du pain béni pour le président Vladimir Poutine.
Et là aussi, donc, qui s'est opposé au vote d'un texte de dommage aux victimes, aux quelques 8000 victimes de
ce conflit. On retrouve dans le veto russe.
Protégeant les Serbes, toujours.
Protégeant les Serbes, mais on retrouve aussi le clivage avec l'Occident. La plupart des pays occidentaux, le texte a été initié par la Grande-Bretagne, soutenu par les autres pays. Et la Russie s'est retrouvée en opposition, comme dans le cadre de BRICS, où sa volonté, puisque l'argument des Russes, c'est de dire que les BRICS et leurs alliés pèsent 30% du produit international du PIB mondial, il faut qu'il compte dans les affaires du monde. Donc, il y a aussi là une volonté de démonstration de la force, de l'importance de la Russie et de ses alliés.
Sedi Kaba, nous allons marquer une pause, comme d'habitude, à mi-parcours de cette émission, afin d'écouter quelques nouvelles du monde. Et on se retrouve dans 3 minutes pour aborder les rivages africains, en quelque sorte. A tout de suite. Merci pour toutes ces informations. On se retrouve pour revivre 7 jours d'événements avec les reportages de la rédaction.
Une semaine d'actualité. Pierre-Edouard Deldic.
Notre confrère et néanmoins ami, Sedi Kaba, le rédacteur en chef de Monde Afrique, est notre invité. Je rappelle qu'il est aussi l'auteur de deux ouvrages, Entretien avec Boubacar Ba, un Nigérien au destin exceptionnel, et Niger, la junte militaire et ses 10 affaires secrètes, 2010-2011, deux ouvrages publiés chez l'Harmattan. Nous allons nous rendre en Afrique tout de suite, Sedik, au Burundi, avec le résultat, sans surprise aucune, des élections législatives du 29 juin dernier, correspondance mardi d'Esdras Dikoumana.
77 sièges sur les 100 en jeu, le président du parti au pouvoir au Burundi ne pouvait pas cacher sa joie hier, juste après la proclamation des résultats des législatives. Pascal Nyabenda.
Oui, je suis content, même si je voudrais encore beaucoup plus de sièges, mais ça fait rien, je suis content.
Mais Agathon Gwasa, principal opposant et leader de la coalition des indépendants de l'espoir, qui s'est vu attribuer 21 sièges dans la nouvelle assemblée, n'était pas dans les mêmes dispositions.
On rejette ces résultats pour plusieurs raisons. Le scrutin conduit ce jour-là, c'était sur faute de controverse quant au calendrier. Les conditions dans lesquelles ça s'est déroulé, sans médias, sans observateurs neutres, sous le coup de l'intimidation sur tout le territoire national, tout ça, ce sont des indicateurs qui montrent que c'est un scrutin qui n'est pas du tout valide, qui n'est pas crédible.
Et Agathon Gwasa de rappeler le nœud du problème à ses yeux. La candidature du président Pierre Nkurunziza en troisième mandat, qui ne passe toujours pas aux yeux de l'opposition. Puis Agathon Gwasa a annoncé que dans ces conditions, les députés issus de sa coalition ne siégeront pas à l'Assemblée nationale, ce qui a valu cet appel du président du parti au pouvoir au Burundi.
Moi je leur dirais de ne pas décevoir encore une fois la population. Vous savez qu'ils l'ont fait en 2010 et la population a été déçue. Et malgré cela, vous voyez que la population va voter. La population burundaise veut la démocratie. Il faut que les leaders aussi puissent suivre cela comme exemple.
Mais l'opposition burundaise n'est pas prête à lâcher du lest.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
C'était notre adresse électronique. Continuez plus que jamais à nous écrire. Un bonjour aujourd'hui à Alassane, à Bobo Dioulasso. Mes encouragements pour la synthèse d'actualité pour nous les surbookés pendant la semaine, écrit-il. Et il pose une question à Sedik. Quel conseil votre invité peut-il nous donner pour éviter de se faire espionner? Je ne sais pas si vous aurez une réponse tout à l'heure. Sedik, bonjour à Maki, à Conakry. Bonjour à Mamadou Kondé également dans la capitale de la Guinée. Merci, écrit-il, pour les infos de la semaine. Et bon ramadan à mon oncle Maury Kondé, à Zérékoré et à tous les musulmans du monde. Un bonjour enfin à Issouf et à Moussa à Abidjan. La suite d'une semaine d'actualité en Afrique. Alors, Sedik, je ne sais pas ce qu'on peut répondre à notre ami Alassane Abobo Dioulasso. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter de se faire espionner?
Non, je pense que...
Question pratique.
La question est pratique, mais moi-même j'ai été espionné pour avoir écrit... tel article ou publier tel ouvrage qui peut déplaire à un régime, on peut être espionné. L'espionnage a plusieurs formes et quand je dis j'ai été espionné, c'est vrai que j'ai été espionné à la fois dans les communications téléphoniques, dans la surveillance de mes emails, dans l'exercice de mon métier de journaliste parce que tel ou tel article en déplu. La meilleure façon...
Vous êtes sûr de ça? Vous l'avez vérifié?
Absolument. Non, oui. J'ai quasiment des preuves. Je suis en train de rassembler les éléments et le moment venu, je vais les rendre publics. Mais quand on découvre qu'on est espionné, l'espionnage n'a plus aucun sens. Parce que la personne qui est espionnée sait qu'elle est espionnée et on ne peut plus. Parce que la vocation de l'espionnage, c'est de pouvoir récupérer des informations sans que la personne qui les donne puisse savoir. À partir du moment où quelqu'un sait qu'il est espionné, c'est que ça n'a plus aucune utilité.
Et c'est pas la NSA qui vous a espionné.
Ah non, je ne pense pas que c'est la NSA.
Il faut être clair. Vous avez écrit, on en a parlé dans cette émission, c'était l'année dernière, il me semble, ou il y a deux ans. Vous avez publié un livre qui s'intitule Niger, la junte militaire et ses 10 affaires secrètes 2010-2011. Un livre qui vous a valu quelques...
Oui, il y a
publié en 2013, il y a deux ans.
Absolument. Il y a un chapitre le chapitre 5 qui parle justement des bases françaises au Niger, de l'installation des bases françaises, de comment ça a été accueilli. Je pense que cet article n'a pas été apprécié. Et par la suite, il y a eu des articles qui sont sortis dans une publication bimensuelle ici, que je ne citerai pas, mais dont le contenu on déplie et le rapprochement a été fait entre mon livre et les articles qui ont été publiés. Et du coup, une sorte de même, un projet de liquidation professionnelle, il faut pas avoir peur de le dire, a été mis en route pensant que je ne pourrais pas survivre à cette tentative de liquidation professionnelle. Et je suis heureux que
vous avez rebondi.
Que je suis devenu rédacteur en chef du site Le Monde Afrique. Suis sûr que avec mes participations à une semaine d'actualité, qui est une émission emblématique, d'autres projets professionnels même peuvent s'ouvrir à moi.
Je l'espère. C'est dit que ce chapitre 5 dont vous parliez dans ce livre, La Junte militaire et ses 10 affaires secrètes, s'intitule La vraie histoire du débarquement des forces françaises au Niger.
Parce que vous savez que par la suite, il y a eu la France a depuis quelques années des bases qui sont, depuis quelques mois, disons, des bases qui sont installées permanence à Niamey. Une base drones, aérienne à Niamey avec une autre base à Madama qui est le poste avancé. Et il y a eu un vif débat sur l'installation de cette base et je crois que l'évocation, puisque je parle de cette histoire dans ce livre, n'a pas plu en certains points et il y a eu une volonté de me nuire, une volonté évidente de me nuire pour avoir évoqué ce sujet-là.
C'est QFD, ce qu'il fallait dire. C'est dit qu'on va parler du Burundi. Quel est votre regard sur ce qui se passe au Burundi, vous avez commencé à répondre à cette question au tout début de l'émission, mais le président est dans sa logique, continue dans sa logique présidentielle.
Absolument. Non, le président est...
Est un parti quasiment unique, toujours majoritaire.
Quoi. Absolument. C'est une sorte de retour au parti unique. Dans la législature qui vient de s'achever, il y avait un pluralisme politique, il y avait une démocratie au Burundi, et là, on se retrouve avec le parti présidentiel qui rapporte 77 sièges sur 100, et il n'est même pas sûr que l'opposition va siéger pour le siège qu'on lui a attribué, puisque l'opposition est allée dire à la CENI qu'elle n'est pas candidate, mais la CENI a maintenu les candidats de l'opposition. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve quasiment dans une situation de parti unique, avec aussi la poursuite des violences.
La CENI qui en plus a coopté des députés pour être conforme à la Constitution qui veut qu'il y ait au pouvoir 60% de Hutu et 40% de Tutsi.
Tout à fait. Il y a toute cette mise en scène qui a été faite, organisée par la CENI pour donner une crédibilité à un scrutin qui n'en est pas un. La plupart des organisations internationales, y compris l'Union africaine, ont dit que ce scrutin n'est pas crédible. Il n'a été ni transparent ni régulier. Parce que les conditions, on ne peut pas, dans une violence où les gens sont tués par balles, où les grenades explosent, tenir un scrutin qui peut être crédible. Donc c'est ça qui fait aujourd'hui que le parti au pouvoir a raflé la majorité de sièges et le pouvoir persiste à vouloir tenir une élection présidentielle dans ces conditions-là. Initialement, le scrutin est prévu pour le 15 juillet. La communauté des États d'Afrique de l'Est a demandé un report de 2 semaines, mais c'est pas en 2 semaines que ça va se régler. Aujourd'hui, le Burundi, il faut que le président Nkurunziza finisse par entendre raison et qu'il retire sa candidature, puisque tous les problèmes du pays sont partis de sa volonté de passer en force pour se présenter à un troisième mandat.
Jours en Afrique.
Merci d'écouter RFI, merci de votre fidélité. Il nous faut parler de Boko Haram maintenant, Sidi Gaba. Le groupe islamiste a multiplié en effet les attaques au Cameroun, notamment ces derniers jours. Yaoundé mercredi, Polycarpe et Samba.
La première attaque de sources militaires a eu lieu dans la localité de Bodo, département du Logonichari, près du lac Tchad. Les assaillants, qui ont traversé la frontière par dizaines à bord de véhicules et à moto, ont eu un violent accrochage pendant une heure environ avec une position des forces de défense camerounaises. Au petit matin, 3 corps d'islamistes ont été retrouvés sur place avec un important arsenal d'armes et de munitions. Le lendemain, toujours aux aurores, une autre colonne d'assaillants a croisé une patrouille de jeunes d'un comité de vigilance chargé de la surveillance des villages dans la localité de Breche, dans le Mayo Sava. Trois d'entre ces derniers ont été tués, mais ils ont réussi à passer l'alerte et à contraindre les insurgés à un repli. Ces attaques interviennent alors que régnait dans la région depuis 4 à 5 mois une certaine accalmie. Une stratégie en trompe-l'œil selon l'armée camerounaise qui n'a pas desserré son dispositif et sa vigilance dans l'extrême nord.
Attaque également au Tchad ces derniers jours. Le point mercredi cette fois avec Madjasra Nako.
C'est le village de Merom qui a été attaqué en premier il y a quelques jours. Précisément samedi dans la nuit, des individus armés pénètrent de nuit dans le village et égorgent 13 hommes avant de disparaître. Dimanche, c'est un autre village, Tiskra ou Bivouac des Chameliers qui a attaqué. Une douzaine de chameliers sont égorgés, mais là, la population réagit. Les gardes du corps du chef de canton ripostent par des tirs, obligeant les assaillants à s'enfuir. Ces attaques semblent faire partie de l'offensive que les islamistes ont lancée depuis quelques jours dans tout le bassin du lac Tchad. Selon de sources militaires, les forces armées déployées dans le pourtour du lac Tchad ont commencé une autre façon de faire la guerre, à affronter un ennemi qui n'a plus de base et se fond dans la population. On est entré de plein pied dans ce qu'il convient d'appeler la contre-guérilla autour et sur les îles du lac Tchad.
À noter aussi des violences communautaires dans le sud de l'Algérie, cette fois à Gardaïa, précisément plus de 20 morts depuis le début du mois. Suite d'une semaine d'actualité en compagnie de Sedi Kaba, vous aviez l'air effaré en écoutant cette correspondance de Madjasra Nako.
C'est tout à fait exact, parce que Boko Haram a toujours prétendu qu'elle agit, que le mouvement, cette secte agit pour défendre les valeurs de l'islam. Or, le comportement qu'ils ont n'a absolument rien à voir. Il n'y a pas pire ennemi de l'islam que ces gens. Égorger d'autres personnes. D'ailleurs, parmi les attaques récentes, ils se sont attaqués à des gens qui prient dans une mosquée. Ils ont tué tous ceux qui sont dans la mosquée. Ensuite, sont allés dans les maisons pour tuer des femmes et des enfants. On est vraiment à un niveau de barbarie inqualifiable. Je crois qu'il faut aujourd'hui que la communauté internationale se mobilise pour en finir avec cette secte. Et de mon point de vue, il faut aussi sensibiliser les populations pour que les populations participent activement, que chaque citoyen puisse s'engager dans la lutte contre ce mouvement.
Qu'est-ce qui s'est passé au Tchad, visiblement, en écoutant la correspondance, il y a eu un mouvement de réaction quand même.
Il y a
eu
un mouvement de réaction de la population, mais il faut aussi que la population collabore, parce que la lutte contre Boko Haram ne peut pas se gagner avec des chars de combat, avec des avions de combat. Non, elle ne peut se gagner que par le renseignement. Et le renseignement humain a besoin de la collaboration de la population. Par exemple, quand il y a eu une tentative d'arrestation des gens de Boko Haram, ceux qui ont commis l'attentat dans la capitale tchadienne étaient quasiment dans la ville. C'est en allant les arrêter que un des kamikazes s'est fait exploser. On a trouvé un arsenal. Donc, il faut que la population, quand elle a de soupçons, puisse collaborer avec les services de renseignement, parce que la capacité de nuisance de Boko Haram aujourd'hui ne s'explique que par la faculté que le mouvement a de se dissoudre dans la population. Les gens font leur acte, ils viennent, ils se cachent dans la population, ensuite ils repartent faire leur acte. Donc, si on a la collaboration de la population, avec le changement, la volonté aujourd'hui de mettre en place une force régionale qui va coopérer, parce que ce qui a aussi aidé Boko Haram jusqu'ici, c'est l'absence de coopération entre les pays. Le Cameroun et le Nigeria ont déjà eu un contentieux historique sur l'île de Bakassi. La coopération a de la peine à se mettre, mais aujourd'hui, il y a urgence à mutualiser les moyens, à se mettre ensemble. Les États-Unis viennent d'annoncer à Niamey une contribution de 5 millions de dollars à cette force-là. Le président, le nouveau président du Nigeria, en plus de l'engagement qu'il a pris d'améliorer la coopération, a mis sur la table 100 millions de dollars. Mais il faut faire vite. Apparemment, pour l'instant, il y a encore de la lenteur, alors que le mouvement continue d'agir sur plusieurs points. Il a attaqué le Tchad, il a attaqué le Cameroun, il attaque le Niger, il attaque le Nigeria. Donc, il y a aujourd'hui urgence à agir, à se mettre ensemble pour en finir avec cette secte qui est le secte le plus dangereux de ce siècle.
Suite d'une semaine d'actualité en Afrique, Sedi Kaba, en Guinée, où l'ancien chef de la junte guinéenne, le capitaine Moussa Dadis Camara, a été inculpé mercredi à Ouagadougou, Binetta Diagne.
Jusque-là, Moussa Dadis Camara avait été entendu en tant que témoin dans l'affaire du stade du 28 septembre. Ce mercredi, il a été interrogé en tant qu'acteur pendant plus de 2 heures par 2 juges d'instruction et un procureur guinéen. Les faits remontent au 28 septembre 2009, jour de fête nationale. Des partis d'opposition appellent à un rassemblement pacifique dans un stade de Conakry, mais des militaires et des forces de sécurité répriment brutalement cette manifestation. Le bilan est lourd, il y a au moins 156 personnes tuées et 109 victimes de viols. En février 2010, la justice guinéenne ouvre une instruction sur ce massacre. Plusieurs hauts responsables du CNDD, le Conseil national pour la démocratie et le développement, sont cités, dont le capitaine Moussa Dadis Camara, qui était alors le commandant en chef des forces armées. Une commission rogatoire pour meurtre, complicité d'assassinat et de viol est alors lancée à son encontre. Fraîchement de retour sur la scène politique, Moussa Dadis Camara a toujours clamé son innocence. Son inculpation se télescope toutefois avec les prémices tendues de la campagne électorale d'octobre. Ses proches dénoncent une volonté de le détourner de ses ambitions politiques.
Suite d'une semaine d'actualité avec cette fois une étape au Mali, au nord Mali, où l'armée française a tué un nouveau djihadiste, Mohamed Ali Agh Ouadossen. Les explications mardi de Christine Muraté.
Mohamed Ali Agh Ouadossen entre dans le djihadisme par la petite porte de voleur de véhicules. Il agit avec une bande de copains, Bayak Bakabo, Alassane Aktoukassa. Dans le clan, le patron, c'est l'oncle, Sedan Agita, un Touareg très influent dans la nébuleuse djihadiste de Kidal. C'est lui qui ordonne à ses deux neveux, Ouadossen et Aïba, d'enlever deux Français en novembre 2011, Serge Lazarevitch et Philippe Verdon. C'est lui qui aurait aussi tenté en octobre 2013 d'obtenir leur remise en liberté en échange de la libération des quatre derniers otages d'Arlit. Selon plusieurs sources, furieux que la négociation ait échoué, il aurait alors cherché de nouvelles proies occidentales pour relancer la demande de libération de ses neveux. Nous sommes début novembre 2013. Ghislaine Dupont et Claude Verlon sont en reportage pour RFI à Kidal. Le 2 novembre, au moins trois hommes les enlèvent en pleine ville. Ils seront assassinés quelques minutes plus tard, à 17 km de là. Parmi les suspects principaux, Baye Agh Bakabo, Alassane Agh Toukassa, les amis de Ouadossen, les hommes de main de Sedan Agita. Ouadossen, lui, est en prison à Bamako. Selon un témoignage majeur, il confie à ses co-détenus compter sur son oncle pour obtenir sa libération. Elle viendra un an plus tard, en décembre 2014, en échange du Français Lazarevitch. Depuis, Ouadossen avait rejoint son oncle Sedan pour poursuivre le djihadisme.
L'actualité africaine, c'est aussi au Burkina Faso la mise en place d'un cadre de concertation de sages destiné à rapprocher les positions des différents acteurs politiques, militaires et civils. Suite d'une semaine d'actualité, c'est dit qu'avec la guerre contre le terrorisme qui continue au Mali, au nord du Mali.
Absolument, la guerre contre le terrorisme continue au nord du Mali et le fait que cette figure importante du mouvement djihadiste Ouadossen ait été éliminée est une bonne nouvelle à la fois pour la lutte contre le terrorisme, mais aussi pour les familles des victimes, parce que il a été libéré en échange de Serge Lazarevitch. À l'époque, ça avait créé une énorme amertume dans la population. Ça a même créé une incompréhension entre le président Ibeka, qui a accepté de faire ce geste-là, et une partie de son opinion. Aujourd'hui, le fait qu'il ait été tué est une bonne chose. Mais au-delà de ça, il faut, pour combattre le terrorisme dans cette zone-là, il faut s'occuper du sud libyen. La plupart des djihadistes se sont réfugiés dans le sud libyen et c'est à partir du sud libyen, profitant de la porosité des frontières, qu'ils viennent continuer à faire leurs méfaits. Si on ne s'en occupe pas, on n'aura pas le problème du terrorisme dans cette zone.
Vous avez sans doute retenu, c'est dit que cette semaine, que la Tunisie a décidé de construire un mur sur une partie de sa frontière, un mur de sable, mais enfin un mur quand même.
Absolument.
Pour se protéger, en fait.
Pour se protéger, parce que les Tunisiens ont conscience, et il a été démontré, que l'auteur de l'attaque de Sousse venait, a été formé en Libye. Les auteurs des attaques de 2013 contre la filiale de Areva à Arlit et la caserne militaire d'Agadez en 2013 étaient venus aussi de Libye. Donc il y a un problème avec le sud libyen, avec la Libye, parce que en Libye, l'État central n'existe plus. Il existe deux gouvernements, il existe deux parlements, il existe plusieurs armées. Les milices sont des armées qui n'obéissent à personne. Et aujourd'hui, tous les migrants qui partent de Libye, c'est parce que la Libye ne peut plus rien contrôler. Donc si on veut régler le problème du terrorisme, il faut aussi régler le problème de la Libye, du sud libyen notamment. Parce que le terrorisme, malheureusement, c'est comme un monstre. Vous décapitez, il y a d'autres têtes apparaissent. Une hydre, voilà, avec plusieurs têtes, ça continue. Et Ouadossen a été tué, mais il y aura d'autres Ouadossen. C'est ça, il faut donc trouver une solution globale. Et une des solutions globales, c'est à la fois le volet sécuritaire, le sud libyen
et le Nord-Mali, mais aussi sur le long terme envisager la solution, la question en termes de développement aussi. Il faut faire en sorte que les jeunes ne soient pas recrutables, ne soient pas à la merci des gens qui peuvent leur proposer 100 euros, comme on l'a vu avec Boko Haram pour les embarquer.
En Guinée, c'est dit que l'inculpation de l'ancien chef de la junte, Moussa Dadis Camara, vous inspire un commentaire?
Oui, je pense qu'il y a, compte tenu de la gravité de ce qui s'est passé le 28 septembre 2009, il faut que la justice passe. Il faut absolument mettre un terme à l'impunité. Il faut absolument qu'on retrouve les auteurs et les commanditaires de ce qui s'est passé, parce que il y a eu 156 morts, qui est un bilan lourd, mais il y a eu 109 femmes qui ont été violées, qui ont porté cette blessure à vie.
Bien sûr.
Cette blessure à vie. Donc, il faut que la justice passe. On peut regretter que le temps judiciaire ne soit pas le temps du commun des mortels. Ça fait 2009 que les enquêtes se poursuivent. Je pense avec l'inculpation de Dadis Camara, les choses vont s'accélérer parce que il y a eu un énorme espoir de faire toute la lumière sur cette affaire avec l'élection de Alpha Condé. Pour l'instant, on achemine vers la fin de son mandat, ça n'a pas été fait. Il faut maintenant rattraper le temps perdu pour que les auteurs puissent répondre de ce qu'ils ont fait.
Allez, terminons cette émission, cette édition d'une semaine d'actualité avec un grand esprit, avec cette lumière de Bouba Car bah, ce livre « Un Nigérien au destin exceptionnel » que vous avez écrit là, cette année, qui donne de l'Afrique une image rayonnante.
Absolument, absolument.
Un peu de lumière.
Oui,
un peu
oui,
de lumière.
Oui. Boubacar Ba est un homme illustre. C'est un universitaire et qui a eu un parcours intellectuel, qui a eu... Un panafricain, qui a eu une légitimité scientifique et qui avait un rapport avec le pouvoir politique qui était clair. Boubacar Ba, quand il a quitté son poste de recteur de l'université de Niamey, Kountié lui avait proposé, Séni Kountié, qui était à l'époque président de la République au Niger en 1979, lui avait proposé de devenir conseiller. Boubacar Ba a refusé. Aujourd'hui, beaucoup d'universitaires, d'intellectuels renoncent à leur mission pour aller devenir conseiller avec rang de ministre ou conseiller avec tel rang pour pouvoir jouir des privilèges du pouvoir. Boubacar Ba avait refusé de le faire. Et en cela, pour moi, il restera éternellement un exemple.
Alors, ce qui frappe dans un livre d'entretien que vous avez mené avec lui, ce qui frappe, c'est la franchise, le côté très franc de ses propos.
Absolument. J'aurais pu récupérer les propos, les rendre, les restituer sous la forme de compte-rendu d'entretien. Mais j'ai choisi ce volet et je suis heureux de dire que lorsque ses enfants ont lu le livre et ses proches, ils m'ont dit « Nous avons retrouvé, nous avons reconnu notre père. Nous avons reconnu la fidélité de votre compte-rendu parce que c'est comme si notre père était devant nous et qu'il s'exprimait. » Et c'est ça aussi l'intérêt du livre entretien.
Un homme qui avait une haute conception de son métier, de l'éducation.
Absolument. Et Boubacar Ba disait d'ailleurs que son regret est que dans sa famille, les enfants n'aient pas suivi ses traces pour devenir enseignant. Parce que lui, il avait une fierté à enseigner, à transmettre le savoir. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne veulent pas devenir mathématicien parce que ça oriente vers l'enseignement. Ils préfèrent devenir ingénieur et gagner beaucoup d'argent plutôt. Alors que lui, l'enseignement est une sorte de sacerdoce. Il se sentait investi de cette mission et il était fier de dire que, par exemple, il était fier, moi, de dire que le président de la République du Niger aujourd'hui a été son étudiant et il a formé d'autres personnes qui ont eu de parcours illustres. Ça lui suffisait comme fierté.
Oui, un homme qui bâtissait partout où il est passé, il a créé des cellules d'enseignement, voire des universités.
Oui, tout à fait. Pas simplement dans son pays. Il a enseigné 28 ans le math. Il les a enseignés le plus brièvement au Niger, mais il les a enseignés surtout en Côte d'Ivoire et à Madagascar, où il a créé l'Institut de recherche en mathématiques. En Côte d'Ivoire, il était responsable du 2A de mathématiques. Et lui-même a fait des publications scientifiques. Donc, je pense qu'il a été utile à une bonne génération d'Africains et il a sémé une graine aujourd'hui encore qui continue de pousser, même si vers la fin de sa vie, il me faisait la confidence de regretter que il y a plus de mathématiciens de grand niveau. Il y avait lui-même, il y avait le professeur Saliou Touré de Côte d'Ivoire, mais il regrettait qu'il n'y ait pas eu une relève suffisamment de haut niveau en matière de l'enseignement de mathématiques en Afrique.
Donc il faut que les jeunes qui vous écoutent en ce moment se lancent dans les études de mathématiques.
Absolument. Il faut que les jeunes se lancent dans les études de mathématiques. Dans un pays africain, il n'y a pas longtemps, on disait qu'il y avait sur environ 9000 candidats à l'épreuve de baccalauréat. Mm-hmm. Il n'y avait que 50 dans la filière mathématique. mathématiques. Donc ça, je pense que il faut aussi que les jeunes Africains s'investissent dans les filières scientifiques, notamment les mathématiques. Pourquoi pas qu'il y ait un prix Nobel de mathématiques africain?
Dites-moi, Cédric, les livres se succèdent. Vous en écrivez pas tant que ça, mais vous en écrivez, et tant mieux, un certain nombre. Le précédent, c'était le livre sur cette junte militaire. Là, c'est les entretiens avec Boubacar Ba, dans des genres différents. Hein.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça me permet d'avoir une lecture transversale des réalités du Niger. J'ai même écrit un livre sur le sida, écrit un livre sur la rébellion Touareg,
sur la formation,
écrit un livre sur l'état de la presse au Niger. Donc, ça, le fait de diversifier me permet d'avoir une lecture transversale, une lecture globale de la situation du Niger. Et le prochain livre pourrait, si Dieu me prête longue vie et si j'ai encore suffisamment de force, si je ne suis pas
de la force, vous avez de la force.
Espionné, je pourrais écrire un livre sur le Sawaba et cette tentative d'insurrection armée que le Sawaba a tenté au Niger dans les années 1964.
Vous viendrez en parler, bien sûr.
Avec grand plaisir. Non. C'est toujours un plaisir de venir vous voir, Pierre-Edouard.
Réciproque. Merci, Sadiq Abba. Il faut donc lire Niger, la junte militaire et ses 10 affaires secrètes, ce livre qui vous vaut quelques petits soucis, mais vous avez rebondi, vous avez pris votre revanche en quelque sorte. Et ce livre, Entretien avec Boubacar Ba, tous les deux sont édités chez L'Harmattan. Merci beaucoup, Sadiq Abba. Semaine d'actualité réalisée par Sophie Janin. Je vous retrouve demain pour le magazine Idées. Nous allons vous proposer le premier des deux numéros consacrés au grand anthropologue français Georges Balandier, un homme qui a beaucoup étudié l'Afrique avant, pendant et après les indépendances, vous le savez, Sadiq Abba. Voici un avant-goût de l'émission de demain.
Pour moi, il ne s'agissait pas de saisir une Afrique figée, ce que j'appellerais le coup des Dogons, n'est-ce pas ? Et ils sont dans l'éternité avec leur civilisation. Et on les étudie parce qu'on a le temps de les étudier. Moi, ce qui m'intéressait, c'est ce qui bouge.
Georges Balandier, demain dimanche, dans Idées, 17h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.